Merci beaucoup. C'est un plaisir et un peu difficile de parler, bien évidemment, après M. Balcou, surtout qu'en plus, c'est un des meilleurs connaisseurs de Renan, qui depuis des années nous aide à entrer dans cette pensée par ses travaux avec Mme Lodis Retta. Je me suis d'abord intéressé à ce portrait, dont nous avons d'ailleurs plusieurs images, et nous avons vu plusieurs images, notamment une venue du Liban. J'étais un peu étonné parce que la Légion d'honneur n'était pas du même côté, du côté de Zorn, qui est celui-là, qui est un peintre suédois, qui a habité Paris entre 1888 et 1896, et qui a rencontré Renan plusieurs fois, bien évidemment. Et lorsqu'on regarde ses esquisses pour ce portrait, on s'aperçoit que c'est un autre savant, lui aussi philologue, qui a servi de modèle, Jean Leclerc, théologien suisse, très important aussi pour Renan. Et je me suis dit que peut-être ce côté massif explique qu'il ait eu deux successeurs, parce que ça arrive quand même pas très souvent, et donc il a eu deux successeurs. Alors, comme vous le savez, une fois que Renan a été renvoyé et puis ensuite révoqué du Collège de France, nous avons quelques souvenirs des acteurs, par exemple de Victor Duruy. Je cite, Victor Duruy avait aussi fait des études en Allemagne et on lui doit des très amusantes notes de voyage et des conférences. Je cite Victor Duruy. « Je laissais quelque temps la chaire d'Hébreu vacante. Le clergé, pour compléter sa victoire, présenta à un candidat, le professeur d'Hébreu à la faculté de théologie de la Sorbonne. » C'était un très brave homme, parfaitement inoffensif, mais qui eût été un peu dépassé dans cette maison du Collège de France. J'avais une revanche à prendre. Je nommai un juif, M. Munk, le premier de nos hébraïsants, qui avait récemment montré sa science et sa sagesse dans une histoire de la Palestine publiée par Didot. Ce fut la fin d'un incident que les journalistes exploitèrent longuement contre moi, et que les prétendus libéraux, très ignorants des devoirs, parfois très désagréables, d'un gouvernement, me reprochent encore. Monsieur Renan ne m'en garda pas rancune du tout et n'a pas regretté cette exécution dont il avait été l'objet. J'en ai eu la preuve dans les divers scrutins qui se sont ouverts sur mon nom à l'Institut. » Fin de citation. Bien évidemment, quand il y a des histoires de nomination, etc., il faut toujours aller voir après comment, qui est-ce qu'a la Légion d'honneur, qui est-ce qu'a une chaire à l'École des hautes études, etc. Et en réalité, on arrive très vite à reconstituer, un peu comme on vient de le faire avec Rome, le scénario. C'était bien évidemment pas la première fois qu'un grand savant allemand venait occuper une chaire au Collège de France. Vous savez qu'il y a toute une tradition absolument fascinante de ces professeurs juifs ou protestants, parfois même catholiques, venus d'Allemagne pour venir en France, notamment dans les grands établissements comme le Collège de France. Ce rapport, cette symbiose avec la science allemande n'allait pas toujours de soi, et on a maintenant des enquêtes complètes dans toutes les disciplines, ou presque, le droit, la philologie, les mathématiques, sur les rapports avec cette science allemande. J'ai une seule petite anecdote, qui est d'ailleurs assez connue, qui explique bien quand même les difficultés qu'avait ce public français, les intellectuels et le public qui assistait à ces cours, à comprendre quelque chose de cette science allemande. On a convoqué en 1798 Wilhelm von Humboldt pour expliquer le kantisme. On ne comprenait rien à la pensée de Kant, bien évidemment, et donc on a convoqué un philosophe allemand, et on lui a demandé, un peu comme une leçon d'agrégation, on lui a dit « vous avez 2 heures pour nous résumer ». Kant. Alors, il écrit une lettre à Schiller pour lui raconter l'histoire. Et puis, il y a aussi une note dans son journal. Voilà, je cite le journal. « La fin de cette conférence fut donc qu'ils n'apprirent rien de plus sur la philosophie kantienne. Et ils n'en eurent pas d'opinion meilleure. Tout au plus, ils sont devenus un peu plus perplexes et doutent encore un peu plus. » Fin de citation. Il y avait là présent tout le gratin de la philosophie française, Sieyès, Destutt de Tracy, La Romiguière, Cabanis, Le Breton, etc. La lettre du 23 juin 1798 à Schiller est encore plus dramatique et un peu prémonitoire, c'est pour ça que je la cite. « Je n'ai pu éviter de rassembler un colloque solennel avec tous les métaphysiciens qui se trouvent ici. La conférence dura 5 heures, pas 2 heures, 5 heures, et partait de tous les côtés comme le veut le genre. On ne se comprit pas et on ne risqua pas la conversion. S'entendre est réellement impossible, et ce, à cause d'un motif très simple. Non seulement ces Français n'ont aucune idée, mais encore pas le moindre sens de quelque chose hors des apparences. La volonté pure, le bien véritable, le moi, la pure conscience de soi, tout ceci est pour eux totalement incompréhensible. Lorsqu'ils se servent des mêmes termes, ils les prennent toujours dans un autre sens. Leur raison n'est pas la nôtre, leur espace n'est pas notre espace, leur imagination n'est pas la nôtre. Fin de citation. On croirait entendre d'ailleurs le débat entre Derrida ou Habermas. Je reviens à Munch, qui est donc un des plus importants hébraïsants à avoir été élu, donc je l'ai dit, au Collège de France, et il fait partie déjà de cette première troupe d'Allemands, parmi lesquels Heine, Marx, Börne et tant d'autres, qui viennent, soit parfois en exil, soit parfois parce qu'ils sont obligés, qui viennent habiter la France et qui, la plupart du temps, y resteront, comme par exemple Heine, qui était un très bon ami de Munch, et qui raconte, lui aussi, son rapport un peu bizarre avec ce public français. Dans ses mémoires, il écrit « Ici, en France, dès mon arrivée à Paris, mon nom allemand de Heinrich a été traduit par celui de Henri, puisque le terme de Heinrich ne correspond à rien pour l'oreille française, et que les Français, d'une manière générale, ne font d'efforts que pour rien du tout que ce soit au monde. Et même le nom de Henri Heine, ils n'ont jamais pu le prononcer correctement, et pour la plupart d'entre eux, je m'appelle Monsieur Henri N. Et beaucoup lient tout cela pour former un Henri N, et même d'autres m'appelaient Monsieur Henrien. » Fin de citation. Alors, c'est assez extraordinaire parce que ça, c'est très drôle en français, pas du tout quand vous le traduisez en allemand, bien évidemment, parce que Herr ein Nichts ou Dr. Nichts, ça donne pas grand-chose. Salomon Munch est né à Glogau en 1803, c'est le parangon de la science du judaïsme dont on a parlé hier, de la Wissenschaft des Judentums, dans une famille juive très pieuse et a reçu une éducation traditionnelle. Nous le retrouvons à l'université de Berlin à partir de 1824, où il écoute les cours de Bopp, Böck et de Hegel, tous ces noms que nous avons déjà entendus. Il travaille bien évidemment au département des manuscrits hébraïques de la Bibliothèque royale, et en 1827, il est à Bonn, afin d'approfondir son arabe avec Freitag, le sanskrit avec Lassen, et assiste aussi aux cours de Niebuhr et de August Wilhelm von Schlegel. Sachant qu'il ne trouverait pas de poste à l'université, d'abord parce qu'il était juif, et en plus parce que les sciences juives comme telles n'étaient pas du tout enseignées encore beaucoup à l'université, je rappelle que toutes ces chaires d'études sémitiques dont nous parlons, ce sont toujours des chaires qui se trouvent à l'intérieur des départements de théologie protestante bien évidemment, parce qu'il ne faut pas rêver, non, à la théologie catholique, il y en avait bien évidemment beaucoup moins. Le problème avec le protestantisme, ce n'est pas tellement le problème des libéraux, c'est que les protestants savent la plupart du temps mieux l'hébreu que les catholiques. Et dans les protestants, ce sont les calvinistes qui savent encore mieux l'hébreu, qui d'ailleurs reproduisent, c'est la minorité de la minorité, et reproduisent l'exil dans l'exil. Il y a d'ailleurs une tradition très forte dans cette maison d'avoir des professeurs protestants calvinistes d'hébreu, depuis M. Caco, Thomas, etc. etc. On reviendra encore là-dessus. On le trouve très assidu au cours de Sylvestre de Sacy, de Quatremer et d'Antoine de Chézy. Il est précepteur chez les Rothschild et il est très lié à Samuel Cahen, le traducteur de la Bible en français, à laquelle d'ailleurs il participe. Et il est aussi assez connu dans le cercle de Victor Cousin, le roi, comme vous le savez, non couronné de la philosophie française, qui a fait absolument tous les postes, n'est-ce pas, depuis l'agrégation jusqu'au ministère, un peu comme notre distingué hôte de ce matin, et qui était patron du jury d'agrég, président de toutes les commissions, président de tous les présidents, et participant du dictionnaire, aussi bien du dictionnaire de la conversation que du dictionnaire philosophique, des sciences philosophiques d'Adolphe Franck, on en a parlé tout à l'heure. Il a pris d'ailleurs les articles de ce dictionnaire pour les retravailler dans les célèbres mélanges de philosophie juive et arabe publiés en 1857 et 1859. Il ne reste pas seulement un savant de cabinet, mais n'hésite pas à se rendre en Égypte afin de rétablir la vérité dans l'affaire de Damas, où, comme vous le savez, en 1840, un juif avait été injustement accusé de meurtre rituel, et il part donc avec Moses Montefiore et Adolphe Crémieux pour Alexandrie, rencontrer non seulement le vice-roi Muhammad Ali, mais aussi pour visiter la communauté juive, acheter des manuscrits et les rapporter à la bibliothèque impériale, où il est employé depuis 1838. Je vous rappelle, pour les gens qui aiment les choses numériques, 1838, c'est la mort de Sylvestre de Sacy, donc le parangon et le mentor de la première génération d'orientalistes européens. En 1846, il fait une découverte inouïe. C'est que l'auteur qui se cache derrière le nom de Avice Hébron et son livre « Le Fons Vitae », simplement connu par sa traduction latine, n'est autre que le philosophe juif Salomon Ibn Gabirol, c'est-à-dire qu'un celui qu'on avait pris pour un néoplatonicien arabe se trouve brutalement être un penseur et un poète juif. C'est un peu comme ce matin, n'est-ce pas, avec Averroès qui change et l'Averroïsme qui change comme ça de visage. Il offre aussi au public européen un des premiers ouvrages modernes sur la Palestine, qui s'appelle « Palestine, description, géographie, histoire et archéologie » en 1845, dans la collection « L'univers » ou « Histoire et description de tous les peuples, de leurs religions, mœurs et coutumes » publiée par Didot. On lit dans l'introduction de ce livre, je cite, « Ce n'est que par le moyen d'une critique impartiale que nous pouvons arriver à la vérité. Selon nous, la Bible, elle-même source principale de notre travail, et où l'idée du divin s'est incarnée dans la parole humaine, ne saurait, comme œuvre des hommes, échapper entièrement à la critique humaine. » Vous avez bien entendu, c'est assez bien joué, hein, c'est l'idée divine qui s'incarne dans la parole humaine, ne saurait, comme œuvre des hommes, échapper entièrement à la critique humaine. On voit que l'habitude du pipoul et de la dialectique des académies talmudiques pouvait aussi rendre des services. Simple historien, c'est lui qui continue, nous traiterons l'histoire des Hébreux, leur institution, leur religion et leurs monuments littéraires dans un point de vue uniquement rationnel. L'examen des faits ne saurait jamais nuire aux vrais sentiments religieux. Fin de citation. C'est le départ d'une autre tradition, assez proche de Renan d'ailleurs, des descriptions des réalia offertes par les textes juifs, non seulement l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça c'était déjà ancien, mais encore du Talmud, ainsi qu'en témoigne la géographie du Talmud d'Adolf Neubauer, publiée à Paris en 1868. Neubauer est aussi une personnalité extrêmement intéressante, c'est la mémoire juif, hongroise, allemande de l'orientalisme. Il terminera, comme vous savez, à la Bodléienne, dont il fera un catalogue des manuscrits arabes. Et là, on a toute cette tradition hongroise avec, par exemple, le nom de Ignaz Goldziher, qui a aussi fait un livre un peu agressif, d'ailleurs, contre Renan. En réalité, ce qu'il y a là-dessous, vous voyez bien, ce sont des gens qui ont une double culture. C'est-à-dire qu'ils ont leur culture traditionnelle, juive, et la culture universitaire. Et ce mixte-là est totalement inconnu, ou presque en France, puisque en France, je rappelle que le premier baccalauréat exigé pour entrer à l'école rabbinique, c'est 1904 ou 1905. Ça fait donc un siècle que nos juifs allemands, ou polonais, hongrois, qui ont la bonne idée de faire leur thèse à München, Vienne ou Berlin, eux sont bien évidemment diplômés de l'université. Et on va voir tout à l'heure que ça fait une réserve d'orientalistes absolument formidable, d'abord à cause des relations entre l'hébreu et entre l'arabe, mais aussi parce que cette espèce d'impératif de la culture qui est dans le monde juif, qui est, comme vous savez, il n'y a pas d'analphabétisme dans le monde juif, en tout cas chez les hommes, chez les mâles, puisque le premier commandement, c'est de lire la Torah et de l'enseigner à son fils. Mon bon maître Pierre Chaunu disait toujours, vous savez, la Révolution française dont vous vous gaussez, elle a été faite avec 50% au moins d'analphabètes, puisque les cahiers de doléances étaient, comme vous savez, déjà préparés et on les faisait signer. Or, il n'y a pas du tout ça dans la culture du monde juif, bien évidemment. Je passe rapidement sur ce centre bifocal entre d'un côté la culture traditionnelle et la culture universitaire, pour revenir à cette nomination. Non seulement il avait fait cette découverte, il avait donc écrit avec Renan des textes très très intéressants. Neubauer avait publié avec Renan Les écrivains juifs français du XIVe siècle, et il a fait deux volumes sous ce titre-là. Et la gloire de Munch est aussi attachée à une autre réalisation absolument extraordinaire, l'édition du texte arabe du Guide des égarés de Maïmonide. Et pour se détendre, une fois qu'on édite le texte arabe, on peut aussi ajouter une traduction française, et c'est encore celle qui nous sert aujourd'hui. C'est donc un des plus grands savants européens qui succède à Renan, Et sa leçon d'ouverture est d'ailleurs aussi extrêmement fascinante à lire. Non seulement il était aussi versé en exégèse qu'en philosophie, mais encore, il avait une connaissance parfaite de l'histoire juive et pas limitée du tout au milieu biblique ou à celui de l'Antiquité tardive. Le problème, c'est toujours que ce monde juif, c'est toujours, on parle toujours du monde juif autour du Christ ou de Qumran, on va un peu jusqu'au Talmud et puis après on s'arrête. Et puis après on les retrouve au procès à l'affaire Dreyfus ou dans la Shoah. Comme si, entre ce temps, il n'y avait pas eu justement cette philosophie, cette poésie, l'émancipation, l'assimilation, le chassidisme, etc. Il achève ces mélanges philosophiques par une synthèse tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Esquisse historique de la philosophie chez les Juifs » jusqu'à Moses Mendelssohn. Alors succéder à Renan, ce n'était pas bien évidemment une mince affaire. Et il s'en tire assez bien. Donc vous voyez bien, comme on disait tout à l'heure, cette chaire, elle était surveillée comme le lait sur le feu. Non seulement on renvoie un catholique, pas très catholique effectivement, mais on prend un Allemand, un juif allemand, et en plus un pieux, pas du tout, des gens un peu éloignés du judaïsme comme on en a trouvé d'autres. Et on va voir que mon deuxième compère qui vient arriver après, c'est lui un protestant, lui aussi très religieux, d'une grande famille de pasteurs, j'allais dire avec un sourire, comme si pour enseigner l'orientalisme ou l'hébreu, fallait absolument venir d'ailleurs. Ou être métèque au sens romain du terme. Quoi. C'est-à-dire que les locaux, les indigènes, c'est un peu compliqué. Quoi. Alors ça tombe très bien, on prend une fois un protestant, on prend une fois un juif allemand. D'abord, ils savent très bien l'hébreu, l'arabe, etc. Donc on n'a pas d'ennui. La mémoire, je cite Munch, sa leçon inaugurale. « La mémoire de l'illustre orientaliste qui fut pendant près de 40 ans à cette place vivra longtemps parmi nous. » Il s'agit bien évidemment de Sassi. Le souvenir impérissable de sa science, aussi variée que profonde, m'impose des devoirs. Je sais aussi quels vifs et sincères regrets ont accompagné dans sa retraite le savant éminent que je suis appelé à remplacer. Cette chaire, ou son érudition, son talent, sa jeunesse, semblait lui promettre un long et brillant avenir. Je m'associe à ses regrets et je déplore, autant que qui que ce soit, la fatalité impérieuse des circonstances qui sont venues interrompre le cours de ces leçons dès leur début. Quant à moi, messieurs, je ne puis plus, hélas, que vous apporter que des débris de mes souvenirs et des miettes. J'espère que vous les accueillerez avec bienveillance. Et bien évidemment, il dit en plus ce qui était la vérité. Au moment où il a été nommé, il était quasiment aveugle, mais ce n'était pas très grave puisque ce genre de personne savait absolument tout par cœur. Non seulement, bien évidemment, la Torah, l'Ancien Testament, le Talmud, etc., mais on a retrouvé ses secrétaires et ses notes, et donc il dictait les éditions de textes qu'il connaissait, donc des manuscrits en arabe ou en hébreu, et aussi des traductions dans les langues qu'on voulait, parce que c'est comme Darmstädter aussi, qui traduisait une fois en anglais, une fois en allemand, un peu pour faire tourner la tête, quoi. Alors il me semble qu'on n'a pas été juste envers les Hébreux en les confondant sous tous les rapports avec les autres peuples sémites. Je n'ai pas le temps de le dire, mais vous verrez, dans la version écrite, il y a subtilement, dans la leçon inaugurale, bien exactement comme on verra chez Berger, aussi une petite mise à distance, bien évidemment, parce qu'encore une fois, il s'agit d'un savant allemand qui sait très bien, d'ailleurs, ce que Renan lui a appris, et pas seulement à Munch, du Ruy que je citais tout à l'heure, quand il parlait de Renan, comme vous savez, qui a récupéré sa chaire, il dit avec un sourire, il a fait de la lourde érudition de Strauss une élégante pastorale. Et ça veut dire, bon, ils font 6 volumes, et puis c'est un peu comme aujourd'hui, quoi, encore. Hein. C'est-à-dire, les Allemands, ils font 6 volumes, et puis nous, bien évidemment, voilà. C'est exactement ça, quoi. Hein. On comprendrait que les Hébreux n'aient pas cultivé les arts. L'art était la mission des Grecs, c'est toujours Munch qui parle. La mission des Hébreux, c'était de connaître Dieu et de le faire connaître au monde. Donc là, c'est absolument fascinant. En entendant Perrine tout à l'heure, je veux dire, on a un deuxième universel, là. Il va y avoir une lutte entre les deux universels, puisque que ça soit par la religion chrétienne ou que ça soit par la religion juive, c'est vers l'universel qu'il faut essayer d'arriver. La pensée religieuse seule exprime des sentiments qui peuvent être compris par les hommes de tous les pays et de tous les siècles. C'est la seule qui peut prétendre à l'universalité. Pour bien comprendre la poésie brahmanique, il faut être hindou. Pour bien sentir toutes les beautés d'Homère, Pindare, Sophocle, Il faut s'identifier avec l'esprit hellénique. Pour bien comprendre la poésie biblique, vous n'aurez besoin que d'être un homme. Fin de citation. Donc c'est absolument fascinant dans l'étude de ces leçons inaugurales, c'est de voir comme ça comment, avec une science, j'allais dire, effrayante, pour des gens de notre génération, parce que c'est des gens qui avaient une connaissance de champs diverses que nous, même ceux qui vont avoir la chance d'arriver dans un bon état au-dessus de 80 ans, arrivent. Non, mais c'est quand vous pensez à Henri Corbin, à Louis Massignon, à Gershom Scholem. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait 3 universités, il y avait 5 revues, et donc il n'y avait pas par péricope, si je puis dire, 2 associations, 5 revues, 6 universités, etc. Cette nomination de Munk a été une révélation pour l'Europe pensante. Un mot de Abraham Geiger dans la Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben de 1867. La nomination de Munk au Collège de France a une signification plus importante que celle d'un autre professeur de confession juive dans ce premier corps d'enseignement en France. Évidemment, si c'est les neurosciences ou ces choses-là, c'est pas très grave. Mais si c'est la chaire d'hébreu et la chaire d'ancien, alors ça devient quand même plus compliqué. Elle est l'expression d'une complète transformation historique considérable. Et il y a une très belle lettre de Victor Cousin à Salomon Munk. On reconnaîtra bien là, les grands mandarins qui, dès qu'on a une réussite, tout le monde prend son téléphone et vous envoie une lettre pour vous féliciter. « Je m'honore d'avoir pris l'initiative de votre nomination à la chaire de langue et de littérature hébraïque au Collège de France. Si j'étais plus jeune, je me ferais votre disciple, car je suis bien curieux de mieux connaître votre grande philosophie et surtout votre philosophie hétérodoxe, à laquelle, d'après les courtes notices que vous en avez fournies, tu parles, je suis convaincu que Spinoza doit beaucoup en bien et en mal. » Alors, Munk a été très très utilisé, on l'a dit par Renan dans Averroès, il y a au moins 50 citations, Ritter, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous regardez après, par exemple, les papiers des inscriptions et belles lettres, c'est un peu dérisoire, mais ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Vous avez les attributions de la Légion d'honneur. Je me suis demandé pourquoi dans les papiers de Renan, il y avait toujours tellement d'attributions de la Légion d'honneur à des savants étrangers. Et en réalité, quand vous posez la carte des savants étrangers, la liste des noms à qui, pour lesquels il a fait un rapport pour avoir la Légion d'honneur, vous apercevez que c'est des noms qui arrivent dans les notes de bas de page de ses livres. Donc c'est quand même une manière élégante, d'ailleurs, je dois dire. Munk meurt en 67, comme vous savez, et donc il n'aura pas enseigné plus de 2 ans. Que faire de cette chaire? On refait une liste, et c'est de nouveau un juif allemand qui est sur la première, sur le numéro 1, qui s'appelle cette fois-ci M. Joseph Berenburg. Même histoire, fils de rabbin, venu de Mayence, comme je dis toujours avec un sourire, bac plus 40, polyglotte. Non, vraiment, il faut voir ce que c'était que ces gens, il faut voir ce que c'était que la science de ces gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ces gens-là, parce qu'il vous manque toujours une langue, comprenez? Vous arrivez dans les archives, vous dites, je vais faire une biographie de Berenburg. Très bien, alors on arrive, alors bon, ici au Collège de France, donc les gens, ils savent l'arabe, l'hébreu, l'anglais, l'allemand, et puis tac, vous tombez justement sur du punique, sur de l'égyptien, sur des choses. Et donc, forcément, ces gens-là sont un peu protégés, je dois dire, par leur science, mais nous, ça nous donne quand même pas mal de problèmes. Alors, Berenburg, c'est très intéressant, parce qu'il est comme beaucoup de ces Allemands, il a commencé à enseigner dans un lycée l'allemand. Il a enseigné à Paris 4, comme beaucoup de ces gens-là. Hein. Il passait le Rhin à Paris 4, beau lapsus, à Henri IV, excusez-moi. Il est temps que j'aille à Berlin une petite année, parce que vraiment, ça va. Berenburg va donc enseigner l'allemand à Paris 4, et comme tous ces gens-là, au bout d'un moment, il dit, vous savez, il n'y a pas que l'allemand que je connais, mais aussi d'autres langues, et donc il était sur le premier de la liste. Alors là, quand même, à Paris et en France, on s'est dit, non, faut pas exagérer. Renan n'est pas un très bon catholique, c'est une affaire entendue, mais enfin, on va pas recommencer, on va pas reprendre un juif allemand. D'autant plus que le Derenbourg, il avait aussi un fils qui sera lui aussi arabisant et hébraïsant. Donc, on distribue ces gens-là. Renan récupère sa chaire. Monsieur Derenbourg, qui entre-temps avait changé son nom, hein, parce que les gens, ils s'appellent De Rambourg. Ils mettent une particule, ils mettent OU pour le U, etc. Ils enlèvent un N quand il y a Altmann, Forstmann, etc. Bon, on les repère assez vite parce qu'ils continuent de savoir l'allemand. Et quand vous voyez leurs inventaires, vous voyez qu'ils sont allés à Bayreuth, etc., etc., etc. Vous imaginez qu'on peut aller loin là. Alors, Ce brave des Runebourg, il n'aura pas la chaire du collège, mais il aura la Légion d'honneur en 69, les IBL en 1871, une chaire d'études rabbiniques à l'EPHE, le fiston aussi, 1885, au Langzot et le PHE. Donc tous ces gens-là, je vous passe le détail des éditions critiques qu'ils ont fait. Il y a dans le titre que vous avez un peu de latin, et tout le reste, c'est arabe avec des notes en hébreu ou le contraire. Enfin, c'est vraiment. Et ce sont bien évidemment des textes qui nous servent encore aujourd'hui. On n'a pas fait mieux, quoi, pour être très honnête. Bref, on a quand même préféré ce savant pas très catholique à cet allemand. Et de toute façon, je pense qu'après la guerre de 70, ça n'aurait pas été très, très agréable. J'ai pas le temps de citer cette lettre merveilleuse de Renan à Strauss où il dit que qu'on a vendu sa lettre à Strauss sans lui dire et il dit oh si ça peut aider à payer un cigare à un des types qui a brûlé ma maison et ma bibliothèque, c'est toujours ça de prix parce que la guerre est quelque chose d'affreux, etc. Dans les lettres avec Mommsen, c'est aussi extraordinaire, ne vous fiez pas toujours aux lettres qui sont dans la grande édition, parce que bien évidemment on a enlevé ce qui fâchait, c'était après, il y avait de nouveau les rapports franco-allemands, etc. Et donc les lettres qui commencent par « mon cher ennemi », on a envoyé ça, et à la fin aussi, quand on dit « mais quand même, les Français avaient bien besoin d'un bon coup de balai, faut pas exagérer, c'était quand même une pétaudière », ça on a enlevé. Hein, donc, il a fallu, je l'ai fait pour une ou deux fois, et avec Kania aussi, j'ai été regarder dans les fonds allemands, dans les fonds Mommsen, ce qu'il y avait effectivement dans les... Deuxième homme, et je vais aller plus rapidement, parce que lui, il a disparu de la circulation, c'est ce monsieur Berger, qui lui, encore une fois, est lui aussi un homme très pieux. Il a été l'assistant de Renan pendant des années, au corpus des inscriptions sémitiques. Il est aussi ancien professeur d'hébreu à la fac de théologie protestante, et donc, il a effectivement toutes les compétences pour succéder à Renan, et c'est ce qu'il va faire. Là aussi, on a une très belle leçon inaugurale que je vous citerai. Et après, quand même, Berger explique bien que Renan, la deuxième fois quand il est revenu, il n'a pas été comme Michelet à faire des séances de cours magistraux extraordinaires, mais c'était vraiment quelqu'un qui était très savant, alors, qui faisait des épigraphies, des copies de textes, etc. Alors ne croyez pas que sous prétexte que ce bon Berger... Au début, d'ailleurs, très honnêtement, j'appelais Berger parce que je me disais, on avait déjà un juif allemand, on a pris Renan pour faire plaisir, puis après on a repris quand même. Ben, non, pas du tout. Mais ce monsieur Berger, il était protestant, comme je l'ai dit. Mais ne croyez pas que pour les collègues français et pour le public français, ça soit plus facile. Il y a toute une tradition d'antiprotestantisme absolument extraordinaire en France, et qui parfois est même pire que l'antisémitisme. Puisqu'on est entre amis, par exemple, Émile Zola, lui-même, écrit dans le Figaro du 17 mai 1881, je cite, « Ces protestants ne sont ni la vérité ni la liberté. Toute notre race répugne à cet enregistrement des volontés. Qu'ils s'en aillent, car nous sommes en France et non en Allemagne. Le juif vous pille, mais le huguenot vous trahit, lit-on ailleurs. De même pour Toussnel, un protestant genevois vaut 6 juifs. » On se doute bien sûr que l'antiprotestantisme culminera aussi au moment de l'affaire Dreyfus. On sait bien que certains protestants n'étaient simplement pas convoqués aux oraux des examens, comme par exemple Georges Perrault lors du concours de l'école normale. Bon, il en deviendra directeur, parce que effectivement l'histoire peut quand même avancer. Philippe Berger est né en 1846 et mort en 1912, et c'est donc quelqu'un qui vient d'une grande famille de pasteurs du Haut-Rhin et qui étudie la philologie comparée, le sanskrit, et il est lié à Berger Levrault, qui est son oncle, donc une grande maison aussi d'édition et d'érudition. Il étudie l'hébreu, et Renan est son véritable maître, ainsi qu'il le rappellera dans sa leçon inaugurale, je vous mettrai les citations sur la version papier. Il est devenu, comme il était passé par Strasbourg faisait aussi le pont entre la science allemande et la France, avec Royce, qui a enseigné pendant 50 ans, et ensuite, à Paris, il aura donc d'abord la chaire d'hébreu de la théologie protestante, et puis ensuite le PHE, et ensuite le Collège de France, passant par sous-bibliothécaire de l'Institut, et il consacrera 40 ans de sa commission au corpus. Alors, bien que protestant, c'était quelqu'un qui avait d'ailleurs pas mal d'humour, parce qu'en regardant son dossier ici, si je ne l'ai pas, je vous le reciterai de tête, on lui demande ses états de service, Parce qu'après, il est devenu sénateur, donc il a demandé de prendre un assistant qui devait être Dussault, qu'il a pris, et que Dussault a été après professeur aussi. Et alors, mais quelle est la dernière retraite? Et elle a marqué 2 points, on l'attend encore. Donc, et j'ai trouvé ça dans les archives ici, donc je trouvais qu'il était... Donc il est devenu en fait un grand spécialiste de la partie phénicienne du corpus, et en fait ce qu'il a fait était très épigraphique, très ésotérique. Une collègue qui connaît bien ces affaires-là me disait qu'il était aussi pas, connu pour des hypothèses un tout petit peu audacieuses. En fait, on a un livre de lui qui est extrêmement célèbre, qui est l'histoire de l'écriture dans l'Antiquité. Alors ça, c'est quelque chose d'assez exotérique et d'assez intéressant. Il y a eu au moins deux éditions. Et donc, le reste, ce sont des estampages, des inscriptions de Palmyre, de Naplouse, du Liban, Sidon, Constantine, etc. Il est aussi, d'ailleurs, un excellent journaliste. Et du coup, il terminera sa carrière comme sénateur du Haut-Rhin en 1904 et il sera réélu en 1909, républicain modéré. Il siège avec la gauche démocratique. Une chose qui est tout à fait extraordinaire, j'ai bientôt fini, Monsieur le Président, c'est que la chaire, une fois que ce berger va mourir, la chaire va être supprimée. Il faut que je vérifie, je pense que c'est parce qu'on avait donné une partie de cette chaire d'épigraphie à Clermont-Ganneau, et donc on avait transformé cette chaire, et du coup, c'est Sylvain Lévy, qui pourtant aurait pu avoir une vieille tendresse pour ce domaine. Comme on sait, c'est typique, il était un grand spécialiste de l'Asie centrale, et j'ai retrouvé dans sa correspondance que c'est lui qui a lui-même expliqué et a dit « bon, maintenant, il ne faut pas arrêter, mais presque. Hein, c'est une vieille chaire, c'est une vieille civilisation, et ce n'est pas la peine. » Alors, je vous citerai cette lettre. Même les gens du collège étaient un peu étonnés, mais ils ont demandé à Lévy. Lévy a dit « non, non, il faut arrêter. On donne Clermont-Ganneau avec sa brosse à dents sur les inscriptions. Et puis, nous, on fait quelque chose sur l'Asie centrale. Et la grande chaire d'Asie centrale est née, si je puis dire, ce qui est aussi extrêmement intéressant, hein, sur les ruines de cette chaire d'études sémitiques. » Alors, je n'insiste pas, parce que là aussi, quand on étudie, je vais probablement publier d'ailleurs les deux leçons inaugurales en même temps, parce qu'on voit comment, en même temps, quand vous faites l'éloge de celui dont vous prenez la place, vous devez quand même expliquer que vous n'êtes pas simplement un clone ou une copie de cet homme-là, et que vous avez aussi d'autres spécialités. Alors, voilà la lettre d'Alfred Fouché à Sergueï d'Oldenbourg. Oldenbourg est de la famille, d'ailleurs, de Zoé Oldenbourg, et était, comme vous savez, le secrétaire de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. On a publié, il n'y a pas longtemps, une correspondance d'orientalisme qui est absolument fascinante. Voilà la lettre du 11 février 1911, hein, donc c'est la fin de la chaire. D'autre part, et le même jour, à son instigation, celle de Sylvain Lévy, et à celle de Chavannes, le Collège de France a supprimé la chaire d'hébreu, entre parenthèses, pourtant une des trois de la fondation de François Ier, pour la remplacer par l'Asie centrale. C'est un succès pour le clan, puisque clan il y a. Et il s'agissait donc de langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale, qui avait été élue avec 21 voix sur 34. Ainsi, je conclus en confiant cette chaire si particulière à un juif et à un protestant. Le collège fit preuve, encore une fois, non seulement de tolérance, mais en même temps, dans les deux cas, le confiait à deux personnes qui étaient des gens de foi. Munk et Berger étaient des hommes de science, mais étaient des hommes de foi. Et donc, cette tolérance était mise en harmonie avec une générosité intellectuelle qu'on trouve souvent dans cette histoire du Collège de France. Je vous renvoie, par exemple, dans l'avant-dernière lettre du collège, à l'article de Serge Haroche sur Anatole Abraham, qui était un juif russe de Moscou et qui a terminé ici, alors je crois, je ne veux pas dire de bêtises, en physique quantique ou en physique céleste ou en physique quantico-céleste, et qui était, c'est exactement la même histoire. Ces gens-là sont arrivés sans savoir un mot de français et terminent pendant 40 ans professeur au Collège de France. Ainsi donc, ce sont deux représentants très éminents de deux minorités qui, comme souvent en France, ont fait avancer la science. Je vous remercie de votre attention.